Chapitre 4. Il était 8 heures du soir. Nicolas quitta la petite crèmerie de la rue Fontaine, où, depuis qu'il habitait avec sa mère le Knox Hotel, il dînait presque chaque jour. Une chaleur étouffante pesait sur Paris. Il faisait encore clair. Le ciel d'un bleu lourd tremblait comme une vapeur. Il semblait que la nuit fût lointaine et que cette heure d'apaisement dût se prolonger longtemps encore. Nicolas n'avait que 400 mètres à parcourir avant d'atteindre l'hôtel. Durant ce trajet, il vécut dans un enchantement. Des bouffées d'air frais, issues de la profondeur des maisons, lui caressaient le visage. Il marchait lentement. Une foi subite en l'avenir l'éclairait. L'avenir de tous les hommes qu'il croisait se présentait à son esprit. Qu'ils fussent riches, puissants ou jeunes, il lui apparaissait que son avenir à lui avait autant de chances d'être brillant que le leur. Les pensées désespérées de l'après-midi s'étaient évanouies. Il les distinguait, mêlées comme une foule s'entretuant, dans une sorte de brume, au fond de son âme. Il se souvint d'avoir traîné toute la journée sans but, ce qui engendra le rappel de 100 autres journées semblables. Maintenant, tout était pour le mieux. Les embarras d'argent disparaissaient. Ce qui comptait avant tout, c'était la jeunesse et la santé. Il possédait ces deux biens. Il n'avait même plus besoin du faible réconfort qu'il trouvait parfois au spectacle des détresses plus grandes que la sienne. Le passé expirait à cet instant. L'attente, les réflexions quotidiennes, il les oubliait pour se tourner vers un futur vague mais plein de possibilités. Le présent, auréolé de cette lumière chaude et douce, au regard d'une fin de jour, le transportait d'espérance. Comme dans cette joie qui suit une bonne nouvelle et que l'on fait durer avant d'en chercher la confirmation, il avançait sans penser, murmurant parfois « Je n'ai qu'à vivre après tout ». En ce soir d'été, toutes ses ambitions folles lui semblaient devoir se réaliser. Il avait rêvé d'être le plus grand en tout. Il se voyait brusquement chirurgien, en train de faire une opération impossible. Les rôles les plus importants, il les jouerait. Demain les lui réservait. Quand il y songeait, cela lui faisait battre le cœur. Son orgueil était sans limite. Il se manifestait dès qu'il se trouvait en face de quelqu'un. Toujours, il voulait être le plus fort. S'il se sentait inférieur, il éprouvait quand même une satisfaction à la pensée que les rôles, à l'insu de son interlocuteur, seraient renversés plus tard. C'était surtout après le repas du soir, lorsqu'il avait pris seul, ou après avoir quitté un ami, ou à la fin d'une après-midi, ou encore le matin, si, après s'être levé, il n'avait parlé à personne, et cela, même si le temps était mauvais, à condition toutefois qu'une pluie trop violente ne l'empêchât pas de sortir, que Nicolas vivait ces instants de prodigieuse confiance. Alors il marchait droit devant lui, imaginant les situations et les bonheurs les plus beaux, se voyant vêtu avec soin, habitant de grands hôtels, flânant avec liberté, voyageant dans le monde entier. Les agréments de la fortune défilaient devant ses yeux. L'automobile, l'appartement, les meubles, les domestiques. Tout cela lui apparaissait si simple, à lui et à sa mère, que tous deux disaient souvent « Il y en a qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Ils n'ont qu'à nous le donner, il sera vite dépensé et bien. » Ou encore « Nous sommes faits pour être riches. » Nicolas avait une soif de besoin que rien ne pouvait apaiser. Devenir riche était son seul but. Celui-ci le poursuivait à tout moment, au point que, souvent, il supposait qu'il avait atteint, et durant des heures, il vivait en imagination comme un milliardaire. Il achetait n'importe quoi sans regarder les prix, jouissait du respect qui l'entourait, se représentait le visage des gens qu'il connaissait en apprenant sa réussite, les voyait tous s'intéresser subitement à lui, lui demander des rendez-vous, dissimuler leur envie. Ce qu'il avait toujours frappé en causant avec ces hommes auxquels il désirait ressembler, c'était la netteté de leur visage. Il acquérait cette netteté. Il suffisait pour cela de ne point courir, de se laisser entourer de prévenances. Chaque jour, il changerait de complet. Il se ferait soigner les mains. Il serait toujours peigné d'une manière impeccable, et alors, la même netteté que celle qu'il admirait se dégagerait de sa personne, des étoffes fines qu'il revêtirait, de son visage blanc, sans un point, sans une tache. Devant le Knox Hotel, Nicolas s'arrêta. Il sentit qu'en le dépassant, son bien-être s'envolerait. Ses instants de bonheur avaient cette brièveté. Il fallait qu'une occupation proche ou un but les limitât. Devant les heures vides, jamais il ne naissait. Pourtant, il hésita à entrer. Il lui répugnait de passer devant le bureau de l'hôtel, d'y décrocher sa clé au moment où les patrons dînaient. Le matin, ceux-ci lui avaient mis pour la troisième fois une note dans son casier. Il n'osait s'expliquer avec eux, leur dire d'attendre pour le paiement. À la fin, il se décida. « Je suis bête de me faire du mauvais sang pour des gens vulgaires qui me méprisent », pensa-t-il. Au moment où il prit sa clé, le patron se leva de table et dit « Vous avez pensé à ma petite note ?»« Oui, oui, merci !» Souvent, Nicolas disait merci sans raison, parfois même après une conversation insignifiante avec un camarade de rencontre. Il faudrait tout de même la régler. Et comme si ces mots lui avaient donné de l'audace, l'hôtelier continua. « Il me semble qu'il y a assez longtemps que j'attends. Votre mère trouve bien de l'argent pour payer ses robes. Elle n'achète pas de robes. Cela ne me regarde pas. Je veux être payé, un point, c'est tout. Dites-le à votre mère. C'est tout de même un peu fort. Je le lui dirai. » Nicolas s'engagea dans l'escalier. Le premier étage, réservé à des couples d'un moment, était éclairé alors que le reste de l'hôtel était plongé dans une demi-obscurité. « Je suis ridicule !» pensa Nicolas en gravissant les marches. Il eut un ricanement, s'arrêta, se pencha par-dessus la rampe. « J'aurais dû lui dire que nous ne pouvions pas payer. Demain, cela va recommencer. Je manque toujours de courage. C'eût été si simple de lui dire « Voilà, nous n'avons pas d'argent, nous vous paierons quand nous pourrons. » Un instant, il pensa retourner au bureau de l'hôtel. Il descendit quelques marches, mais des bruits de pas qui montaient l'en empêchèrent. « Demain matin, il sera bien temps, cela ne presse pas. S'il était plus poli, il y a longtemps que je l'aurais prévenu. » Arrivé au quatrième étage, il frappa à la porte de sa mère. Une voix demanda « C'est toi ?» Il entra et, sans dire un mot, se laissa tomber dans le fauteuil près de la fenêtre ouverte. Sorti de la cage obscure de l'escalier, il reprenait vie à la lumière du jour. Sa mère était allongée sur le lit qui n'avait été défait qu'à son sommet pour en tirer les oreillers. La chambre était en désordre. Tout ce qui pouvait témoigner d'un passé aisé, des photographies, des coquillages, une icône de bronze, des flacons, se trouvait en évidence sur la cheminée, terni par la poussière de la journée. Madame Aftalion tenait à tous ces objets. Depuis la mort de son mari, elle les traînait derrière elle d'appartements meublés en chambre d'hôtel, et chaque fois, quel que fût l'agencement de la pièce où elle demeurait, elle les disposait de la même manière sur la cheminée. C'était alors, au premier jour d'une nouvelle chambre, son seul réconfort. À tout moment, elle regardait la cheminée et, oubliant les meubles hostiles, il lui semblait que c'était toujours dans le même intérieur qu'elle vivait. Dans un coin, une malle recouverte d'une étoffe formait un siège. Des cartons de grands magasins aux couleurs voyantes traînaient sous le lit. Sur la table de nuit, il y avait une cloche de Pâques qui avait contenu des chocolats et au mur, des cartes postales représentant des artistes de cinéma. La première parole de Madame Aftalion fut « Tu as demandé de l'argent à Marcel ?» D'avoir vécu plusieurs années avec un étranger faisait qu'elle prenait une intonation bizarre chaque fois qu'elle prononçait un prénom. Elle éprouvait une sorte de fierté à passer, elle aussi, pour étrangère, et si, ordinairement, elle parlait sans accent, elle s'efforçait de trahir une autre nationalité en épelant les noms. Nicolas ne répondit pas. Au bout d'un instant seulement, il demanda à son tour « Et toi, as-tu vu Madame Nazaroff ?»«
Oui, mais elle ne veut rien savoir. »
Madame Aftalion affectionnait également un langage de jeune homme. Toutes les expressions qu'elle entendait dans la rue, elle les employait. Pourtant, on sentait à un rien que ce n'était pas vraiment elle qui parlait. Il semblait, quand elle disait « Ils nous laissent tomber » ou «
Quel raseur! Qu'elle jouait un rôle et que c'était tout autrement qu'elle eût voulu s'exprimer. Mais c'était encore pour prendre un air d'étrangère qu'elle parlait ainsi, d'une étrangère ayant appris avant toute chose la langue de la rue et ignorante du côté populaire de ses expressions. Elle se leva et, regardant son fils avec douceur, « Tu as dîné ?»«
Oui. »«
Qu'est-ce que tu as mangé ?» D'habitude, Nicolas racontait ses repas en détail. Il avait pris goût à cela. Ce genre de conversation détournait son attention de ses soucis. Cela le reposait. Il semblait alors que plus rien d'autre n'existât. Ce soir-là, il répondit « Cela n'a pas d'importance. » Madame Aftalion s'était tue. Devant son fils renfrogné, elle se sentait envahie par une grande détresse. À la fin, elle dit « Tu as vu le propriétaire ?»«
Et comment ? »
« T'a-t-il dit qu'il ne pouvait plus nous garder ?»«
Non. »«
À moi, il me l'a dit. Avec une femme, on se gêne moins. » Un silence suivit ses paroles. Puis elle continua avec tristesse. « Cette fois, il faut vendre ce manteau. »«
Et si le propriétaire ne me laisse pas sortir avec un paquet ?»«
Tu lui diras que c'est pour le payer. Je n'ai plus que 300 francs. » C'était pour Madame Aftalion un crève-cœur chaque fois qu'elle devait se séparer d'un objet qui lui rappelait le passé. Elle ne pouvait s'y résoudre pour la double raison qu'en dehors du témoignage de l'aisance passée, elle s'attachait aux objets autant qu'aux gens et qu'aux habitudes. C'est ainsi que, lorsqu'elle adoptait quelque chose, elle ne pouvait changer et qu'habitant un endroit, même si elle en trouvait un autre de mieux, elle y restait. Depuis 15 jours, elle devait vendre ce manteau, mais chaque fois, devant les sommes qu'on lui offrait, elle se mettait dans des rages folles.
« C'est bien ça. Quand on achète, c'est hors de prix, et quand on vend, c'est pour rien. »
Elle partait en injuriant les marchands, en les traitant de voleurs et en les menaçant de déposer une plainte à la police. C'était un côté de son caractère de causer du scandale. En vérité, elle ne pouvait se résigner à se séparer de ce manteau, et dans sa mauvaise humeur, elle s'en prenait à tout le monde avec colère. En outre, une tournure de son esprit faisait qu'elle aimait à se sacrifier et qu'il fallait qu'on lui arrachât un objet pour qu'elle en supportât la séparation. En la voyant si déprimée à la pensée d'être privée de son manteau, Nicolas dit « Va, maman, tu sais bien que je serai riche et que je t'en achèterai un autre, plus beau, si c'est possible d'être plus beau. » Nicolas savait que sa mère ne supportait pas qu'on lui promît des choses plus belles. Ce qu'elle avait, il n'y avait rien de plus beau. Elle était de ces femmes qui, dans les plus petites circonstances, sont comme celles que l'on abandonne. Qu'elles manquent un rendez-vous, qu'elles cassent un objet, il semble alors que le plus grand malheur se soit abattu sur elles. Madame Aftalion souffrait pour un rien. Même au temps où elle avait été heureuse, elle avait vu partout des atteintes à son bonheur. La nuit tombait doucement. À une fenêtre encore obscure de la maison d'en face, un homme en manche de chemise prenait l'air et regardait de temps en temps la fenêtre de Madame Aftalion. La rue étroite, que l'on n'apercevait pas, était sillonnée d'autobus. Louise avait tiré d'une housse son manteau et l'avait posé sur le lit. Elle tourna le commutateur. On était au milieu de l'été, et pourtant son esprit, le dépassant déjà, apercevait l'hiver tout proche, ce qui, comme chaque fois que des soucis vous font sauter une saison, lui causa un malaise. Depuis qu'elle s'était décidée à vendre son manteau, les saisons intermédiaires n'existaient plus pour elle. C'était, d'une part, 6 mois d'été, de l'autre, 6 mois d'hiver. Nicolas, lui, était plongé dans un rêve intérieur. De temps en temps, un détail l'intéressait. Et à la façon dont son attention se portait ensuite sur un autre détail, on sentait que c'était pour chercher un autre délassement. Soudain, il éclata d'un rire violent. « Et lorsque nous aurons dépensé l'argent, qu'est-ce qui arrivera ?» Sa mère ne se retourna même pas. Assise à côté de son manteau, elle le caressait machinalement, s'arrêtant parfois pour regarder la bordure usée des manches qui faisait songer à quelque bête malade. Il riait toujours, puis, comme dans les plaisanteries, s'arrêta net et répéta « Qu'est-ce qui arrivera ?» Madame Aftalion secoua la tête. Oui, qu'est-ce qui arrivera ?
Tous deux se regardèrent. Louise caressait toujours son manteau.
Nous n'aurons plus rien, Nicolas.
À ce moment, la sonnerie du téléphone de la chambre retentit. Nicolas prit le récepteur. Le patron de l'hôtel, avec une politesse où perçait le désir qu'il avait de montrer que le service était le même quand on ne payait pas, demandait si le monsieur des parfums pouvait monter. Un homme chétif entra peu après dans la pièce. C'était un représentant d'une fabrique de parfums qui, le soir, son travail achevé, allait d'hôtel en hôtel vendre, avec une forte remise, des flacons en cachette. Il portait une petite valise qu'il posa sur le lit. Madame Aftalion adorait les parfums. Alors que jadis, elle restait des heures avant de faire un choix, donnant des flacons à peine les avait-elle ouverts parce qu'en rien dans l'odeur lui déplaisait, elle était à présent beaucoup moins difficile. Ce fut ainsi qu'à Genève, elle distinguait de grandes différences entre des roses semblables, entre ses chapeaux, qu'à un rien elle ne portait pas. Elle aimait ou détestait les choses à des détails imperceptibles. Mais à présent, ces détails imperceptibles, elle les ignorait. L'objet existait avant tout. C'était l'essentiel. Ainsi, elle, qui pour rien au monde n'eût porté une robe dont la teinte ne lui plaisait pas, portait-elle à présent des robes au hasard des teintes qui, chez les revendeuses à la toilette, tombaient sous ses mains. Ces revendeuses, elles guettaient leur adresse dans les journaux d'écho, et souvent elles disaient que, par les temps qui couraient, les femmes du meilleur monde s'y faisaient habiller. Nicolas profita de la présence du marchand pour gagner sa chambre, qui se trouvait à l'étage au-dessus, et dont la fenêtre étroite et longue, car l'autre battant servait de fenêtre également à une pièce contiguë, donnée sur une cour humide et sombre comme un puits. Puis, sans ôter son chapeau, dont il s'était couvert pour monter l'étage afin d'avoir les mains libres, il s'assit sur le bord du lit. À cette seconde, il se souvint qu'étant enfant, lorsque ses parents se trouvaient en Suisse, il avait entendu sa mère dire que la guerre allait peut-être la ruiner. Il se souvint avec quelle force de tout son être il avait espéré cette ruine. À ses yeux d'enfant, elle devait apporter la délivrance de la vie quotidienne, l'imprévu, peut-être cet isolement qu'il souhaitait ardemment en secret. Il ne put s'empêcher de répéter à haute voix la phrase que sa mère avait prononcée tout à l'heure. « Nous n'avons plus rien. » Et il sentit combien il avait été naïf de désirer une telle chose. Il s'allongea. Toute sa jeunesse repassa devant ses yeux. Il marmotta « nous n'avons plus rien ». Longtemps, il avait cru qu'il n'y avait rien de définitif dans leur situation. Puis, petit à petit, il s'était aperçu que tout allait en empirant, qu'à mesure que les semaines passaient, il était de plus en plus difficile de faire face aux dépenses. Les amis, les parents mystérieux chez qui, enfant, il avait cru toujours trouver un appui, il les connaissait à présent et savait qu'il n'obtiendrait quoi que ce fût d'eux. Alors que, dans sa jeunesse, ils étaient tous autant de familles en qui il put espérer trouver le même soutien qu'auprès des siens, ils étaient à présent des gens aussi distants que ces groupes étrangers où il avait pénétré parfois quelques heures. Comme si, à mesure qu'il avait grandi, il eût mérité moins d'attention, il sentait que son âge l'éloignait de tous. Un instant, il pensa descendre, marcher, se promener tard dans la nuit, tant il lui semblait être enterré vivant et ne pouvoir se défendre contre la vie dans cette chambre sans air. Mais la crainte que le propriétaire, en le voyant, pensa qu'il menait une vie plus compliquée, bien qu'il ne payait pas, que les autres locataires, le retint. Un profond désespoir, auquel s'ajoutait que tout ce qui pouvait lui rester à faire au monde était de se coucher, l'envahit. Il étouffait. En fermant les yeux, la fièvre faisait qu'il sentait toutes choses autour de lui comme grossies et ayant des bourrelets. Le plafond, au lieu de peser sur lui, s'élevait dans un ciel noir, découvrant au-dessus de Nicolas un gouffre qu'il voyait tout à coup tourner jusqu'à ses pieds. Ses vêtements, qu'il avait conservés, le serraient. Ils lui apparaissaient comme des liens lancés par le monde, comme des liens perfectionnés de toile, afin de ne laisser aucun jour sur sa chair. Un frisson le secoua tout entier. Il venait d'apercevoir, dans une déchirure lumineuse, brève comme un éclair, un jardin ensoleillé, des toilettes blanches, quelque chose comme l'image du bonheur. Il ouvrit les yeux. L'électricité éclairait la pièce, mais l'ampoule était si faible qu'on eût dit une lampe qui allait s'éteindre. Par la fenêtre, de l'autre côté de la cour, il aperçut une toile qui tamisait la lumière d'une chambre. Il se rassit sur le lit, cherchant machinalement d'une main des cachets dans le tiroir de la table de nuit. « Cela ne peut plus durer. Cela ne peut plus durer. » Il répéta ces mots 10 fois, 100 fois. « Cela ne peut plus durer. » Soudain, il s'interrompit. Il compta les syllabes de cette phrase sur ses doigts. Une sorte de clarté se fit en lui. Il se leva et, à haute voix, sur un ton calme, avec une pointe d'ironie, répéta « Cela ne peut plus durer. » Puis il ajouta « Je suis un imbécile. » Brusquement, il se mit à crier avec des éclats de voix, comme s'il eût fait des remontrances à un domestique « Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. » Il marchait, en faisant des gestes saccadés, s'efforçant de ne penser à rien, faisant avec la tête, à chaque instant, des signes négatifs et affirmatifs, animant, autant qu'il pouvait le faire seul, son corps. Comme le chien se secoue après le bain pour être le même qu'avant, il s'agitait le plus qu'il pouvait pour chasser sa torpeur et sa détresse. « Je suis un imbécile, » dit-il une dernière fois. Comme, après avoir chanté des heures un même refrain, il dut se faire violence pour ne pas répéter encore cette phrase. Trempant le coin d'une serviette dans de l'eau froide, il se frictionna le visage. À sa nervosité de tout à l'heure, succéda un état neutre, fait d'une subite indifférence pour tout ce qui pouvait arriver. Il se déshabilla, ferma la lumière, et, au moment où il se coucha, un air de mandoline, montant du fond obscur de la cour, parvint à ses oreilles. Chaque fois que, dans un voyage ou dans une chambre inconnue, de la musique se faisait entendre alors qu'il était couché, il était heureux. Il aimait à s'endormir ainsi, bercé par toutes sortes de souvenirs. Il ne pensa plus à rien. Les yeux fermés, il écouta jusqu'à ce que le sommeil l'envahît.